Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le métier d'historien, sa fonction et sa finalité. On en parle à l'occasion de la publication d'un livre, L'œuvre du temps, aux éditions de la Sorbonne. Essai intime sur le rapport d'une historienne à l'archive, au fait, à la vérité, mais aussi à la responsabilité et à l'engagement. Cette historienne, c'est Ludivine Bontini, qui publie aussi Révolution dans la nouvelle collection Le mot est faible des éditions Anna Mozart. Deux livres ancrés dans une réflexion très vive aujourd'hui sur la place des affects dans la recherche. Ludivine Bontini sera notre invitée à 12h55. Mais avant cela, rencontre avec un grand auteur de bande dessinée, passé maître dans l'art de créer ou de recréer des personnages auxquels on s'attache et qui nous suivent toute notre vie. Pélisse et le chevalier Bragon, Peter Pan et Clochette, Serge et Marie. Aujourd'hui, Max et Baya. On part en quête, mais cette fois-ci dans la forêt amazonienne avec Régis Loisel, jusqu'à 12h30.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Bonjour Régis Loisel.
Bonjour.
Faut-il vous présenter encore? Grand prix de la ville d'Angoulême en 2003, l'un des auteurs majeurs de la BD contemporaine, La quête de l'oiseau du temps, évidemment, vous fera connaître dans les années 80 et donnera au genre de l'héroïque fantasy ses lettres de noblesse en France. Peter Pan dans les années 90, retour au réel, on pourrait dire, dans les années 2000 avec Magasin Général. Vous lancez une nouvelle série ces jours-ci en tant que scénariste, une fonction que vous semblez occuper plus volontiers ces dernières années. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Un putain de Salopard avec Olivier Pont aux éditions Rue de Sèvres, avec un François Lapierre à la mise en couleur. Une exposition permet d'ailleurs de voir les planches originales en ce moment à la Galerie 9e Art à Paris. C'est jusqu'au 4 mai. On va parler bien sûr de cet album, on va parler de votre parcours Régis Loisel, mais quand même une question, je le disais, les quêtes de l'oiseau du temps dans les années 80, Peter Pan dans les années 90, Magasin Général dans les années 2000. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre si longtemps à chaque fois Régis Loisel pour avoir le plaisir et la chance de vous lire à nouveau?
Tout bêtement, parce que la bande dessinée est une occupation qui prend beaucoup de temps et pas mal de réflexion aussi. Et puis il y a la vie autour, hein. On va pas passer notre vie, moi je ne passe pas la mienne sur une table à dessin, bien que ma femme trouve que j'en passe trop. Mais c'est vrai que c'est un boulot de passion, mais un boulot qui prend énormément de temps. Il faut savoir que pour faire une bande dessinée, enfin du moins pour la dessiner, un minimum il vous faut une bonne année, une année et demie, quoi. Donc vous voyez, au milieu de ça il y a les amis, les copains, les repas, la vie, les enfants, et puis voilà, quoi.
Et il y a un putain de salopard. Ce putain de salopard, c'est le père de Max qui vient de perdre sa mère. Il trouve deux photos qui le montrent enfant au Brésil avec deux hommes différents et sa mère donc sur le perron d'une maison. Et il va partir en quête, la quête encore une fois de ses origines. Et donc vous êtes scénariste sur cet album. Je le disais, c'est Olivier Pont qui est au dessin et François Lapierre à la mise en couleur, qui est aussi une fonction que vous aimez occuper. Vous avez cette capacité, toutes les couleurs de la palette un petit peu à votre actif, Régis Loisel. C'est une histoire que vous portez depuis longtemps, cette histoire de Max et de Baya, donc cette jeune muette qu'il va rencontrer.
C'est un grand mot quand même, hein. Disons que d'ailleurs au même titre que Magasin Général ou que Le Grand Mort, etc., ce sont des histoires que j'avais en tête depuis 20-30 ans. Vous voyez? Et c'est des trucs, vous notez ça sur un cahier, vous dites, ah tiens, je pense que là, il y a une bonne idée. Bon, je la note, j'ai pas le temps de la créer, parce qu'à cette époque-là, il y a 20-30 ans, ça, j'étais je devais travailler encore sur Peter Pan, j'imagine, hein, Peter Pan, la fin de la quête, Peter Pan. Et donc, je note ça, ce genre d'idées. Et puis, quand vient le temps, elles ressurgissent. Mais elles ressurgissent surtout au travers de décisions qui viennent me voir et qui me disent, tiens Régis, tu voudrais pas, t'as pas une idée comme ça, ce serait bien qu'on bosse ensemble. Parce que j'ai absolument pas des velléités d'être scénariste au départ. Moi je raconte mes propres histoires, ou je participe à des histoires comme co-scénariste avec, par exemple avec Le Tendre. Et voilà, donc évidemment comme je cède par amitié, je dis oh ouais, pourquoi pas. Et là c'est là que je sors mes petites idées de ce fameux cahier, quoi.
Mais le cahier de Régis Loisel, c'est le même cahier que celui de Croquis ou c'est un cahier différent?
Oh, c'est des cahiers différents, il y en a plein. C'est des cahiers d'écoliers, c'est un peu épars à droite à gauche, une grosse mallette comme ça. Il y a à boire et à manger, quoi.
Ça doit être lourd quand vous partez en vacances, Régis Loisel. On retrouve dans cet album le goût de l'aventure, un certain érotisme aussi qui marque vos bandes dessinées, du burlesque. Votre personnage, Max, trimballe une chaude pisse pendant tout l'album et ça donne ce caractère un petit peu burlesque qu'on aime à retrouver en vous lisant. Le titre, Un putain de salopard, ça fleure bon les années 70, hein, un film avec Lino Ventura, je sais pas. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça.
Moi, j'ai pas pensé à ces références-là. C'est vrai que c'est un titre qui est un petit peu percutant, surtout quand vous rentrez, je sais pas, j'imagine un gamin rentrer dans la librairie en disant « Bonjour monsieur, je voudrais un putain de salopard ». Et à la fois, c'est rigolo parce que ça lui permet de dire des gros mots sans aucun problème. Hein. Hier, c'est amusant parce que je me suis fait interviewer par une jeune femme qui, elle, avait du mal à dire un putain de salopard. Elle me dit, mais je le dis jamais de gros mots, je dis jamais de gros mots. Ben, j'ai dit, mais c'est pas un gros mot, c'est le titre d'un album. Et pourquoi un putain de salopard? C'est que, ben voilà, c'est que très souvent, quand je fais parler mes personnages, je les fais parler d'une manière tout à fait ordinaire. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire un peu vulgaire. Disons, ça va de merde à salaud, mais ça va pas au-delà, hein. Et puis, ben, salopard aussi, ou saloperie, des choses comme ça. Puis bon, l'association, un putain de salopard, c'était... ça ronflait, quoi.
Mais c'est quoi un salopard en bande dessinée? Un personnage qui serait un salopard?
Ouais, non, ouais, voilà, c'est pas forcément un salopard, c'est la vraie définition, je ne sais pas exactement laquelle c'est, mais c'est pas un sadique, c'est un enfoiré, quoi. C'est vraiment le gars un peu vil, il est pas net, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous faire des crasses, quoi.
Je le disais, Régis Loisel, vous attachez beaucoup d'importance à vos personnages. Alors, vous n'êtes évidemment pas le seul, mais c'est vrai que vous avez cette capacité à créer des personnages qui nous accompagnent. Hein, je le disais, ceux de la quête de l'oiseau du temps, et même à recréer des personnages comme Peter Pan ou la fée Clochette, qui prennent vraiment de la matière, de l'épaisseur, à la fois sous votre plume, sous votre trait, je ne sais pas quoi vous dessinez, et également dans vos scénarios, dans vos histoires. On peut penser à vous lire que pour vous, la bande dessinée, c'est presque une histoire de casting.
Ben exactement. Pour moi, vraiment, je raconte une histoire à travers des personnages, quoi. Pour moi, ce sont les personnages qui font l'histoire.
Il faut s'identifier.
Enfin, pour moi, vraiment, je me dis que s'il y a pas pour une bande dessinée, si vous n'arrivez pas à vous identifier à un ou des personnages, je pense qu'en général, ça marche pas. Il peut y avoir des très belles mécaniques d'histoire, hein, des très bons scénarios, à savoir, il y a une mécanique. Une intrigue ou je sais pas comment qui peut être très très bien, mais on l'oublie très très vite si elle est pas perçue par un personnage qui mène l'histoire, quoi.
Et du coup, vous avez de l'empathie pour vos personnages, parce que vous les épargnez pas, hein, vos personnages en règle générale.
Non, mais ce sont des personnages de la vie, d'une vie normale, quoi. C'est vous, c'est moi. On a nos hauts, nos bas, nos forces, nos faiblesses. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans un personnage, c'est beaucoup plus d'exploiter leurs faiblesses que leurs qualités. Parce que dans la faiblesse, il y a le charme, il y a l'excuse, et puis ça le rend humain, quoi. C'est ça.
Ce qui pourrait sembler assez paradoxal, parce que vous les placez, en tout cas c'était le cas dans La quête de l'oiseau du temps, un peu dans Peter Pan et là dans Un putain de salopard, beaucoup moins dans Magasin général, mais on y reviendra quand il s'agira d'en parler, Régis Loisel. Ces personnages, vous les placez souvent donc dans cette situation de quête, et donc dans une quête, on attendrait plutôt à voir émerger la force, le courage des personnages.
Oui, c'est vrai, moi je le voyais pas comme ça, mais effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi ce qui m'intéresse, c'est la faiblesse, c'est la fêlure. Dans chacun d'entre nous, on a tous un point faible. Et c'est ça qui m'intéresse d'exploiter. Et ça n'empêche rien. Ça en fait un personnage attachant ou sur lequel on a de l'empathie. Enfin, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, quoi.
Alors, dans ce rapport entre l'écriture et le dessin, je vous propose d'écouter une archive de Jean Giraud, un Moebius, notre maître à tous sur le dessin et l'écriture. C'était dans l'émission À voix nue sur France Culture en 2015.
Créer une image à partir d'un texte, c'est choisir entre mille solutions et choisir celle qui va apparaître, qui va prendre sa forme et qui va s'imposer sous le regard du lecteur. Donc, quelque part, ce lecteur, il est là, présent, d'une façon virtuelle, au moment du dessin. Mais on raconte partout qu'on a créé un lecteur, mais en fait, c'est soi-même. Hein, on se dédouble d'une façon légère, parce que ce qui est curieux quand on dessine, c'est comme pour un écrivain. Un écrivain, est-ce qu'il écrit ou est-ce qu'il lit ? Vous voyez, quand il écrit un livre, est-ce qu'il se contente, au fond, il n'est que le premier lecteur. Et il assiste au lieu de lire à la vitesse de lecture, il lit à la vitesse de l'écriture. L'écriture est un acte largement inconscient. On est presque victime de sa propre écriture.
Jean Giraud, Dimo et Bus, au micro de Thomas Baumgartner en 2015. Toujours émouvant d'entendre la voix de Jean Giraud, Régis Loisel. Est-ce que vous vous sentez vous aussi ?
Ce qu'il dit est formidable aussi.
Victime, évidemment. Évidemment, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi cette archive. Marie Placet a choisi cette archive, la réalisatrice de l'émission. Pourquoi est-ce que, d'après vous, il dit qu'on est victime de sa propre écriture ? Vous vous sentez pareil, une victime de votre propre écriture ?
Non, pas victime, mais en fait, on dévoile ce qu'on est, et ce qu'on est, ça nous échappe complètement, parce que si vous étiez à vous regarder vous-même dans ce que vous faites, vous n'êtes plus, hein, c'est ça. Donc en fait, on se surprend, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, quand il dit on est son premier lecteur, on découvre
au fur et à mesure de l'écriture, quoi.
Ouais. Et bon, pour un dessin, c'est pareil, des fois on se surprend. Bon, des fois on gomme parce que ça marche pas, mais des fois on se surprend à découvrir quelque chose quand vous êtes en état de grâce comme ça, vous dites waouh.
Une forme super. D'intelligence de la main en quelque sorte.
Exactement, exactement.
Indépendante et évidemment de la volonté, Régis Loisel. Comment est-ce que vous travaillez en collaboration quand on est dessinateur comme vous, qu'on se fait scénariste ou en tout cas qu'on se met au service d'un scénario pour un autre dessinateur? Est-ce que vous intervenez beaucoup? Est-ce que par exemple vous êtes directif sur le cadrage, les points de vue, les paysages qui sont évidemment normalement l'apanage du dessinateur?
Ah ben c'est sûr que c'est une sinécure de travailler avec moi, parce que j'ai les deux casquettes, quoi. Donc forcément...
Vous faites des storyboards?
Non, alors ça dépend pour qui. Il y a des gens qui aiment bien que je leur fasse un storyboard, parce que du coup ça leur facilite la tâche, et c'est la mise en scène d'une planche n'est pas leur point fort. Du coup là c'est bon, il reste tout le dessin à se taper quand même, ce qui est pas évident.
Faire, oui.
Ouais, voilà. Il y en a d'autres qui ont une mise en scène formidable auquel je n'interviens pas, ou de temps en temps je dis ah tiens, ça, après c'est une question de point de vue évidemment, mais dès le point de vue que si ça fonctionne chez lui, si ça fonctionne, même si moi je l'aurais fait différemment, si ça fonctionne, ça fonctionne, je pars, mon point de vue n'est pas plus fort que le sien, et voilà. Mais puis de temps en temps je fais des remarques, alors après je peux faire des remarques sur le dessin proprement dit, tiens le mec il a une grosse tête, ou bien c'est bizarre ce raccourci, ou bien tel mouvement ça colle pas, ou voilà.
Je crois que c'est Olivier Pont qui dit que, par exemple, vous êtes intransigeant sur la continuité du personnage, c'est-à-dire que vous reprenez personnage tout d'un coup change de physionomie, ce qui peut arriver, hein, d'une case à l'autre, d'une planche à l'autre, évidemment, entre le moment où si ça prend un an de dessiner un album, on se doute bien qu'entre le premier jour et le dernier jour, les personnages peuvent évoluer, mais vous, ça, évidemment, vous laissez pas passer, Régis.
Non, je laisse pas passer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que notamment pour le cas d'Olivier, que j'adore et qui est un très très bon dessinateur, mais bon, chacun ses points faibles, hein, donc son point faible, ça, actuellement, et il est très content que je lui pointe du doigt, que je lui souligne,
c'est que ces
personnages, à mon sens, ces personnages n'évoluent pas, ces personnages involuent. C'est-à-dire qu'au départ, il met bien au point ces personnages, je parle au niveau graphique, ça fonctionne très très bien, et il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, ça part en sucette, ce personnage, il le tient plus, voilà. Mais bon, c'est pas très grave, on rectifie, hein.
Vous avez poussé la collaboration très loin, jusqu'à dessiner à quatre mains, c'est avec Jean-Louis Tripe dans le magasin Général, où vous dessinez. Vous êtes deux dessinateurs sur les mêmes planches. Comment ça fonctionne? Alors, surtout après ce que vous venez de nous dire sur votre côté un petit peu maniaque, hein, du dessin, et comment ça marche tout simplement?
C'était tout simple avec Jean-Louis Tripp. Donc on a mis nos égos au vestiaire, hein, ça c'était important, et on a fait le scénario ensemble. Et puis le dessin, alors ça c'était une première, c'est-à-dire que moi je partais de la page blanche, c'est-à-dire que je faisais la mise en scène, je créais les personnages, je faisais comme je fais pour moi, Sauf que je ne l'ancrais pas. Enfin, je ne l'ancrais pas. Si, je l'ancrais un petit peu pour parce que Jean-Louis faisait des photocopies de ce que du travail que j'avais fait parce que il préférait travailler plus petit. Donc, il réduisait un petit peu mon dessin. Et quand vous faites ça uniquement au crayon, les photocopies sont pas très très nettes. Donc, j'ancrais ça vite fait ou comment soit au stylo à billes ou soit au feutre. Et mais le dessin, la planche était faite. Toutes les perspectives étaient là. Le petit canard, le petite poule, tout ça était là. Et redécalquer ça.
C'est intéressant parce que ça pose la question du style. Vous avez un style bien à vous, Régis Loisel, très reconnaissable. Vous dites que c'est un style qui a pu évoluer, évidemment, ne serait-ce que dans La Quête de l'Oiseau du Temps, entre le premier album, La Comte de Ramor, et les derniers, avec ce tournant du Riche, qui est le troisième album, votre style évolue. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose auquel vous pensez et que vous avez réussi à abdiquer en quelque sorte en travaillant avec Jean-Louis Trip, cette question du style.
Oui, je vous dis, le truc était réglé, c'est parce que Jean-Louis redécalquait ce que moi je faisais, donc c'était son canevas, il n'y avait pas de problème, il ne faisait pas autre chose qu'un autre mouvement, mais il mettait tous ses codes graphiques sur les miens, ce qui fait qu'à la sortie, c'est ni lui ni moi. Quoi.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Blackbird des Beatles s'est joué à la guitare dans cet album Un putain de salopard de Régis Loisel et Olivier Pons s'est joué par le héros Max qui joue Blackbird. En tout cas, j'ai cru reconnaître les paroles Régis Loisel.
Ben écoutez, c'est rigolo parce que maintenant que vous me le dites, au départ c'était Michel Mabel. Parce que comme je suis quelqu'un qui parle pas très très bien l'anglais, je me suis dit, dans le scénario, je vais mettre Michel Mabel, son de nom. Ça, c'est formidable. C'est du français, quoi. Je peux l'écrire comme ça. Et je pense que Olivier, qui est un fan aussi des Beatles, a dû prendre cette chanson-là par goût. J'ai pas fait attention parce que ça ne change rien au scénario. Hein,
non, absolument rien. Mais d'ailleurs, c'était la seule musique que j'ai trouvée exploitable dans votre album, Régis Loisel. C'est un peu artificiel de la mettre là comme ça, mais c'est pour faire une petite pause musicale. Et puis, c'est toujours agréable d'écouter les Beatles, cette chanson-là.
Ah, bien sûr.
Cette chanson-là en particulier, et puis ça rappelle un petit peu votre goût aussi pour la culture anglo-saxonne, pour la culture américaine. Bon, les Beatles, c'est les Anglais, évidemment, tout le monde le sait. Notamment votre goût pour Disney, pour revenir un petit peu aux origines de votre travail. Vous dites, Régis Loisel, que vous découvrez la bande dessinée, vous êtes fils de militaire, vous avez bougé en fonction des affectations de votre père, et vous découvrez la bande dessinée avec Disney, et par la suite, vous allez être amené à travailler sur des films, Mulan, l'Atlantide, et même très récemment, à faire un Mickey.
Oui, alors donc effectivement, moi ma culture c'est Mickey, Bugs Bunny, Tommy Jerry, enfin tout ce qui est cartoon, ça c'est ce que j'ai découvert à travers les dessins animés, et ensuite par rapport à la bande dessinée, et jusqu'à l'âge de 16 ans j'ai fait ça quoi, et un jour j'ai découvert Mad Magazine, et là j'en ai pris plein la tronche avec Wallace Wood et Jack Davis, et Kurtzman, et là ça a changé complètement la donne. J'ai abandonné Mickey et ses copains. Et donc les années passent, et là c'est en 2015 je crois, ou 2016, j'ai l'opportunité de faire, c'est Glénat qui a eu la licence pour Mickey, et il me propose, sachant que je suis un fan, il me dit, est-ce que tu veux faire ton Mickey? J'ai dit, laisse-moi finir Magasin Général et je suis ton homme après. Et là j'ai pris un pied, mais alors incroyable, je crois que c'est le plus grand pied que j'ai pris de ma carrière, voyez. Mickey.
Un Mickey anticapitaliste plongé dans les années 30 de la Grande Dépression. Vous y mettez, comment dire, une signification sociale qu'on ne trouve pas forcément chez Disney, et qui même peut paraître paradoxale, hein, quand on sait ce que c'est que cette grande firme internationale hollywoodienne qui est devenue Disney, encore plus aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, Régis Loisel.
C'est très curieux, parce que en général, ils passent ça au crible. Hein, le scénario est passé au crible, le dessin, tout doit être formaté.
Mickey ne peut pas manger d'andouillette.
Voilà, il ne peut pas manger d'andouillette, évidemment, l'andouillette, c'est fait avec du porc, donc il mange ses congénères, c'est pas possible, pas de poulet, pas de poisson, pas de ceci, pas de cela, enfin, tout ce qui est animal. Et évidemment, il peut pas sortir de la chambre de Minnie, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, on n'est pas obligé non plus d'en arriver là. Hein. Mais moi, je me suis pas occupé de ça, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis dit, si ils acceptent, c'est très bien, s'ils acceptent pas, c'est pas grave, je me plierai pas à... J'avais envie de faire mon Mickey. Voilà. Donc, et ils m'ont laissé faire, et c'est incroyable d'ailleurs, parce que tous les gens qui l'ont lu me disent, mais comment c'est possible.
Je confirme, et c'est vrai que cet hommage au Mickey des années 30 de Floyd Gottfredson est quand même vraiment, vraiment... exceptionnel à lire, Régis Loisel. Juste un mot sur Minnie, puisque il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, c'est l'importance chez vous des personnages féminins. Et oui, c'est important.
Oui, mais c'est parce que je les aime, j'aime les femmes. Donc je leur donne toujours un rôle important, quoi.
Puisqu'on a écouté tout à l'heure Moebius, je vous propose d'écouter un autre grand maître de la bande dessinée, c'est Franquin.
Quand j'ai commencé, moi, la bande dessinée, malheureusement, il y a longtemps, il n'y avait pas d'école mixte, hein, et il n'y avait pas de petites filles qui venaient à l'école chez les bons pères.
Et là, pour eux, oui.
Alors, cette espèce de ségrégation des sexes continuait dans les revues. C'est pour ça qu'on voyait assez peu de filles qui auraient en somme semé le trouble dans la bande dessinée. Seulement, il y a une chose très amusante, c'est de voir, il y avait à l'époque des bandes américaines, même avant-guerre, et alors il y a une chose qui est apparue bien des années après, quand on a pris un peu de recul, c'était la façon dont tous ces personnages étaient maquillés dans les divers pays. Il y avait par exemple, vous connaissez Flash Gordon, les filles de Flash Gordon sont une émotion de ma petite adolescence, une émotion charmante. Je ne suis pas devenu un maniaque sexuel pour ça, mais elle me plaisait bien. Voilà, la reine Fria dans son emballage
juste
très transparent.
Corps,
oui. C'était très... Mais il faut voir maintenant, on a publié depuis longtemps d'ailleurs, ce qui arrivait à chacun de ces personnages dans les divers pays. Mm-hmm. Les Italiens, par exemple, mettaient une robe noire entière, etc. Bon, et les autres cachaient, mettaient des soutiens-gorge spéciaux plus lourds, etc. Et j'avais un ami qui était par après, qui est Delporte, un complice en bande dessinée, et qui est devenu le rédacteur en chef de Spirou des années après. Et son premier travail aux éditions a consisté à diminuer les poitrines féminines qui venaient d'Amérique. Dans ce journal-là, ça ne convenait pas. Alors il s'arrangeait comme le travail lui déplaisait. Quand c'était de profil, il coupait tout droit pour que ça se voit. Alors,
du sabotage
carrément.
Franquin au tribunal des flagrants délires au tout début des années 80, en 1980 sur France Inter, évidemment, Régis Loisel, il nous parle évidemment de la taille des poitrines des femmes dessinées par les Américains, voilà, qui sont maquillées à l'époque. Ça doit vous parler, vous qui dessinez souvent des femmes assez plantureuses.
Bah oui, non, mais ça c'est une affaire de goût, hein. Et puis c'est vrai que la rondeur, hein, c'est très proche de Mickey, hein, tout ça. Hein. C'est vrai que bon, bah, moi j'aime bien les femmes plutôt potelées plutôt bien en forme. Mais en même temps, j'aime toutes les femmes, hein, c'est pas un problème. Mais ce que j'aime bien dans les femmes, dans le dessin des femmes, c'est le contraste. Soit petite poitrine et hanche large, soit grosse poitrine, hanche large, joli fessier, joli joufflu. Voilà, bon, la tringle à rideau, ça me tente moins. Mais je trouve du charme aussi, quoi.
Vous dites souvent, pour progresser dans le dessin, il faut évidemment affronter un certain nombre de problèmes. Les vôtres se situent, comme pour beaucoup de dessinateurs, au niveau des pieds et des mains. Et donc, il faut inventer des choses, évidemment, pour les contourner. Il y a des problèmes particuliers sur l'anatomie des femmes, notamment, que vous rencontrez. Vous avez dû contourner. Est-ce que votre façon de dessiner, tout simplement, elle est aussi induite par ce que vous arrivez à faire?
Surtout à travers, je dessine à travers mes faiblesses. Hein, ça, effectivement, comme vous le disiez, moi, je suis un tricheur. Hein. je fais illusion, mais je me considère pas comme un grand dessinateur. Il y a des gens qui m'épatent, qui vous descendent un dessin comme ça, c'est ahurissant, quoi. Je dis, comment il fait? Moi, par contre, je peine, donc évidemment, et tout ce qui est, quand ça s'arrête aux cuisses, c'est très bien pour moi. Après, j'ai du mal à finir les genoux, une belle articulation des genoux, et puis ensuite les pieds, ça n'en parlons pas. J'ai toujours ce petit problème-là, donc soit je les mets dans l'eau, soit des
herbes hautes,
etc. Et ça a créé, en fait, surtout à travers la quête, ça m'a forcé à créer un style de narration et surtout un style de cadrage.
C'est-à-dire
que vous pouvez pas faire une bande dessinée toujours en essayant de cacher les oreilles, les pieds, enfin vos faiblesses. Donc il faut les contourner. Donc il faut en faire un allié. Personne ne m'a jamais fait la réflexion en disant ah tiens c'est bizarre, on voit jamais tes pieds ou on voit jamais ceci ou cela. Mais c'est parce que je sais pas les faire et que je truquais suffisamment pour que les gens se rendent pas compte.
Par le cadrage notamment. Par le cadrage, notamment.
Je mets souvent des premiers plans noirs, des hautes herbes, des machins, et du coup ça crée. Il y en a même qui disent tiens, il y a des cadrages à la Loisel, vous voyez, mais ils savent pas pourquoi. C'est parce que voilà. Et puis maintenant, c'est mon écriture graphique, quoi.
Puisqu'on parle de cadrage, une dernière question. Je vais
faire les pieds, hein, maintenant, quand même.
Ah, bah, très bien. Vous nous en ferez des pieds, Régis Loisel. On le postera sur le site de la Grande Table. Juste une dernière question, puisque vous parliez de cadrage. Il paraît qu'il y aura une adaptation au cinéma de Magasin Général. On en est où de ce projet?
Il paraît. Non, mais vous savez, le cinéma, ça va, ça vient, ça c'est vraiment le miroir aux alouettes pour un dessinateur. Et ça c'est, je m'y suis brûlé les ailes à deux reprises, donc ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, je m'en fous complètement. Mais ceci dit, c'est censé se faire. Et puis ça devait se tourner là au printemps au Canada.
Avec
et
Christian en fait, Duguay à la réalisation.
Voilà, c'est ça, qui est un Christian Duguay, et qui est un très bon réalisateur. Et je crois qu'il y a des problèmes de fric, une fois de plus, hein, de production. Donc en fait, ils ont remis ça plus tard, donc à jamais.
Et donc vous vous remettez à votre planche à dessin,
exactement.
C'est quand même beaucoup plus facile et moins onéreux. Merci beaucoup d'être passé par la Grande Table.
Je vous en prie, c'est moi.